Donc, nous allons donner la parole au professeur Benoît, qui est également membre de l'Académie nationale de médecine. Et monsieur Benoît, vous n'en voudrez pas au maire qui va devoir s'absenter à l'introduction de votre conférence.
Je le comprends parfaitement, monsieur le président. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, je vous remercie d'abord de me donner la parole pour faire une petite mise au point sur le cannabis, l'addiction au cannabis et les problèmes qu'il pose. Je voudrais en premier dire trois choses. Premièrement, l'addiction au cannabis est très importante en France. Nous sommes le pays d'Europe qui est le plus atteint et le cannabis est la drogue illicite la plus utilisée dans le monde. Il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle une très grande tendance. La substance illicite la plus utilisée dans le monde. Il y a 200 millions de consommateurs occasionnels ou réguliers. Et à l'heure actuelle, il y a une large tendance des médias pour souhaiter la dépénalisation du cannabis, la libéralisation de la drogue. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, qui nous menace et qui est extrêmement risqué. L'Académie de médecine a pris une mesure pour informer des risques de cette banalisation, de cette intoxication, parce que le cannabis est la première étape sur le chemin de la drogue et il est certain que cela risquerait d'augmenter l'utilisation des drogues. Il y a en France donc 1,5 million de consommateurs et en particulier 500 000 consommateurs quotidiens d'après le rapport d'un toxicologue français. Et un des éléments graves, c'est qu'il y a une addiction de plus en plus fréquente chez les jeunes. C'est donc un véritable problème de santé publique parce que la consommation du cannabis est une porte d'entrée sur le chemin de la drogue et qu'on peut considérer que c'est un véritable fléau social. Si on note quelques chiffres, en prenant les données de l'Observatoire français des drogues, ce n'est pas une drogue douce, mais c'est une drogue à cinétique lente. En 2010, près de 50% des jeunes âgés de plus de 17 ans ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, et c'est particulièrement important pour les garçons. 27,9% ont consommé dans le mois de l'enquête, il y a 11% de consommateurs réguliers, c'est-à-dire 10 fois par mois. Et ce qu'il y a de redoutable et de très dangereux, c'est que la première prise est survenue aux environs de 15 ans. Entre 2000 et 2005, on a constaté une augmentation de la consommation régulière de cette drogue, qui est passée pratiquement de 2 à 4,8% entre 16 et 55 ans. Et c'est un élément très important que l'on s'efforce de souligner, c'est que la consommation précoce de cannabis favorise l'addiction et les troubles psychologiques. En Europe, cette consommation est à l'extension, mais la France est le record d'Europe, nous sommes en tête, nous sommes champions d'Europe. Entre 15 et 30 ans, il y a 42% d'utilisateurs en Espagne, la drogue est en vente libre en Espagne, 40% en Hollande et pratiquement à peu près autour de 30% pour les autres pays. Alors, le cannabis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plante vivace qui pousse sur les pentes de l'Himalaya, en Inde, dans l'Afghanistan, en Afghanistan, en Iran, dans l'Asie du Sud-Est, et elle a été introduite progressivement au Moyen-Orient et puis au Maroc, qui est un très grand producteur de cannabis. Alors, son nom scientifique, c'est le cannabis sativa ou cannabis sativa indica, et depuis des millénaires, cette plante était utilisée pour faire des cordages de bateaux et pour faire des tissus assez rugueux et assez banaux. Alors, le cannabis se présente sous trois formes. Dans le monde actuel, sous la forme d'herbe, une marijuana, alors c'est le classique joint ou pétard, les feuilles sont séchées et mêlées au tabac. Deuxièmement, elle se présente sous forme de résine séchée ou agglomérée, c'est le hashish qui est connu, qui a été développé en France en 1830 par le club des hashishiens, et qui porte le nom de shit ou de kif, qui est à fumer ou à consommer, on le consomme en gâteau ou en tartiflette. Enfin, sous forme d'huile, qui est plus concentrée en principe actif, et enfin, sous forme de scuf, qui est un dérivé manufacturé du cannabis. Le principe actif, c'est le tétrahydrocannabinol, et c'est lui qui est l'élément psychoactif. Le delta UBAF THC est un produit psychoactif et ce qu'il faut souligner, c'est que son effet est proportionnel à la concentration moyenne en principe actif. Or, dans les feuilles de marijuana, la concentration était très faible, à 1% ou 2% au maximum. Maintenant, dans la résine, la concentration de cannabis a été doublée. Elle est passée à 80%, ce qui le rend extrêmement toxique. Alors pourquoi? Parce que la culture du cannabis s'est banalisée complètement. On peut sur Internet acheter des graines de cannabis. On vend même des armoires pour développer cette culture avec des lampes pour chauffer dans un degré d'hygrométrie parfait. Et cette drogue et cette plante est très renforcée en concentration en THC. La culture est faite avec des graines sélectionnées dans des conditions optimales de lumière et de température. Et c'est à l'heure actuelle un des dangers. Il y a une généralisation, et on le signale régulièrement, de la culture de cannabis dans les pays européens, en France en particulier. Alors il y a 60 à 100 tonnes qui sont saisies au niveau des douanes. Le transport du cannabis est facile parce qu'il est fait par des voitures très rapides qui passent les frontières très facilement, surtout avant le contrôle aux frontières. Et il arrive soit d'Espagne, du Maroc par l'Espagne, soit de la Hollande et des pays du Nord. Il y a de plus des cannabinoïdes de synthèse, ou spice, qui sont alors actuellement développés et dont l'action est plus puissante sur les récepteurs. Alors en effet, le cannabis agit sur trois types de récepteurs, le récepteur CB1 et CB2. Les CB1 sont des récepteurs ubiquitaires, c'est-à-dire que nous l'avons dans tout l'organisme, et c'est leur stimulation qui a des effets psychoactifs. Alors ils sont dans le système nerveux, au niveau du cortex cérébral, et surtout au niveau du système, ce qu'on appelle le système limbique central, l'hippocampe, le cervelet et l'amygdale. Mais aussi, ces récepteurs sont au niveau du cœur, au niveau du tissu adipeux, du foie, et dans les terminaisons nerveuses. Ce sont des centres qui impliquent la mémoire, ceux qui sont situés dans le cerveau, et la créativité. En fait, d'autres récepteurs, les récepteurs CB2, sont au niveau des cellules immunitaires. On a constaté qu'il y avait une expression accrue de ces récepteurs dans certains états pathologiques. Alors, le THC a une absorption très rapide, en 6 à 8 minutes, il passe dans le sang. Là, il subit un métabolisme hépatique très complexe, on est passé très rapidement, et il est rapidement capté par les tissus prévascularisés, le cerveau, le foie et les tissus gras. Il est concentré dans les graisses, ce qui entraîne une très lente redistribution. L'élimination est digestive urinaire en 4 à 6 jours, et les effets délétères peuvent se prolonger en fonction de la concentration en THC. Alors le cannabis est fumé, il y a diverses techniques, le joint, la pipe à eau, la chicha, le banc, il y a des éléments très variés pour fumer le cannabis. L'absorption est très rapide, avec une disponibilité très grande, très rapide aussi dans le sang. Il est détecté dans le sang 3 minutes après la première inhalation, et la concentration optimale, maximale, est obtenue en 7 à 8 minutes. Le pic sanguin est influencé par le nombre, la durée et le volume des inhalations. L'élimination est très rapide et la demi-élimination s'est faite en 44 à 60 heures. Après consommation, les urines contiennent du cannabis pratiquement 10 à 12 jours. Alors, l'adolescence est le terrain électif et c'est ce cadre absolument redoutable. Ce sont soit des jeunes en difficulté familiale ou en difficulté scolaire, des jeunes en manque de soutien social, des jeunes des banlieues, des chômeurs, des jeunes chômeurs ou des jeunes qui n'ont pas de soutien scolaire, des jeunes qui appartiennent à des foyers familiaux éclatés, mais aussi, et c'est le deuxième versant, c'est les foyers très favorisés au plan économique. Il y a des soirées parisiennes où avec l'alcool, on fume beaucoup de cannabis, les soirées people, les soirées des vedettes, et ça c'est un événement qui est très alarmant parce que ça incite les jeunes à consommer, à imiter les vedettes, et à faire ce que font les personnalités en vue du monde parisien. La consommation est très largement associée au tabac et à l'alcool. La consommation se fait en groupe, donc en général, et dans les discothèques, surtout dans ce qu'on appelle les raves, c'est-à-dire ces concentrations de jeunes avec des orchestres de pop qui sont dans la campagne, où on consomme beaucoup de cannabis, beaucoup d'alcool, et où il y a toujours des accidents dramatiques, parce qu'il n'y a pas de moyen de secours. Enfin, il y a des différences régionales. Dans la région PACA, c'est là où on consomme le plus, avec la région parisienne, mais la région Midi-Pyrénées est aussi fortement marquée par la consommation de cannabis. Alors, l'adolescence est la période privilégiée pour l'addiction. Les jeunes adolescents ont une très grande vulnérabilité à l'addiction aux drogues. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la recherche de sensations nouvelles, la recherche d'un dépassement de soi et le besoin de s'affirmer en opposition avec la famille et l'entourage. Mais en plus, il y a le désir de copier les vedettes, de suivre les danseurs, les chanteurs de pop, les chanteurs à la mode, et le désir de jouir sans contrainte. Alors il y a trois types de consommation. La consommation récréative, conviviale, on fait ça pour s'amuser, en groupe, c'est peut-être pas très dangereux, mais ça donne l'habitude d'utiliser le cannabis. Deuxièmement, il y a la consommation solitaire. Alors c'est celui qui a pris l'habitude de fumer le cannabis parce que ça le remonte, soi-disant, parce qu'il est déprimé pour des raisons psychotomiques. Et en fait, il y a la consommation toxicomaniaque, qui est ceux qui sont accrochés, qui ne peuvent pas se passer du cannabis, et nous verrons les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Alors, il y a une diffusion extrême actuellement de la consommation du cannabis. Il y a une extension du nombre de vendeurs clandestins. Et malgré la répression, on vend beaucoup de cannabis dans toutes les banlieues, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Les saisies aux frontières sont insuffisantes. Jusqu'au contrôle des frontières actuelles, elles ont passé comme on voulait le cannabis, dans des voitures, dans n'importe comment. La drogue vient du Maroc, du Pakistan, de l'Afghanistan, et surtout du Maroc pour la France. Les zones de vente sont incontrôlées, elles sont dans toutes les banlieues et dans les cités en général, et c'est très difficile de limiter la vente. Les facteurs de risque, c'est la délinquance. Dans les prisons, il y a beaucoup de cannabis. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme cela. L'isolement familial et social favorise la prise de cannabis. Et surtout, alors c'est l'élément nouveau, c'est l'autoculture. Le cannabis est cultivé pratiquement dans certaines régions, dans les grandes villes, sous serre, et cette autoculture est à l'augmentation. Alors la vente rapporte beaucoup, c'est 8 à 10 euros la barrette de 2 grammes, 5 à 6 euros pour 1 gramme d'herbe, et il y a un énorme trafic actuellement incontrôlé avec la suppression des contrôles hospitaliers. Alors qu'est-ce que c'est que l'addiction ? L'addiction, ce n'est pas un terme addict, ce n'est pas du tout un terme anglo-saxon, c'est un terme qui vient du latin, d'addictus, c'est-à-dire le corps donné en gage pour une dette impayée. L'addiction, c'est une notion de contrainte, de privation de liberté. L'addiction est une pathologie de la dépendance à une substance apte à donner du plaisir. Et l'addiction, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité et d'une circonstance qui favorise celle-ci. Les effets sont délétères s'il y a une consommation régulière, délétère au plan psychologique, au plan affectif, au plan somatique, mais aussi au plan social. Alors l'intoxication aiguë a été bien décrite dès 1847, c'est la thèse du docteur Moreau de Tours, c'était l'ivresse cannabique. Il a très rapidement décrit et très bien montré que c'était un produit psychoactif d'action rapide. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sensation immédiatement de bien-être, d'euphorie, avec des effets ébrieux, c'est l'ivresse au cannabis, mais cela entraîne une perte d'esprit critique, des troubles de la vigilance et de difficultés de concentration avec une réduction de la lucidité. Et c'est associé à des phases de confusion, alors il y a des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives. Et l'élément très très important, parce que le cannabis est une cause majeure d'accidents de voiture, sur les simulateurs de conduite, il y a des effets délétères prolongés pendant 4 à 8 heures. En fait, plus rarement, il y a des troubles anxieux, des attaques de panique ou des troubles psychotiques, avec de véritables délires. Alors, j'ai attiré l'attention sur le cannabis et sécurité routière. En effet, le cannabis a un effet désinhibiteur. Les jeunes qui ont pris du cannabis et avec de l'alcool ont la sensation de maîtrise complète, de liberté absolue, et c'est une source très importante d'accidents de voiture. Il y a une incitation à la prise de risque, une incitation à la vitesse, et il y a une diminution des réflexes. Les effets du cannabis sont prolongés au-delà du 6 heures, et ils sont bien sûr majorés par l'alcool. Alors il y a deux études qui ont été faites. En 2008, une étude qui a été faite par le service de toxicologie qui a montré que sur 4750 dosages sanguins après des accidents corporels graves, chez des sujets de moins de 25 ans, il y avait 32% de dosages sanguins positifs au cannabis, avec un taux sanguin supérieur au taux de 1 g par millilitre. Enfin, il y a les SAMU de France ont fait une étude de cannabis et accidents de la route et ils ont montré que les concentrations supérieures à 1 nanogramme et à 5 nanogrammes multiplient le risque d'accident de voiture par 2,8 et 6,6. Alors, il y a des conséquences somatiques, des conséquences sur notre corps. La gravité dépend, et ça c'est un point important à souligner, de l'âge de l'initiation. Plus on fume jeune, plus on prend des risques et des risques somatiques très importants. C'est deuxièmement la durée de la consommation qui compte. Bien sûr, si on consomme pendant quelques jours, ce n'est pas très grave, mais si on consomme régulièrement pendant des mois, eh bien, il y a des effets toxiques qui sont très importants sur le système nerveux et sur les viscères. Et la concentration en delta 9-THC est la source de retentissements graves sur l'organisme. Mais enfin, la gravité dépend aussi de la prise de toxiques associés, l'alcool, le tabac et les amphétamines, parce que très souvent, on complète l'addiction au cannabis par la prise d'amphétamines. Alors le danger majeur, c'est indiscutable, ça augmente le risque traumatique et la mortalité des jeunes, et il y a un risque létal quand il y a une association à d'autres toxiques, avec des risques importants d'accidents de la circulation. Alors la consommation chronique, deux prises par semaine pendant plus de 3 mois, altère les performances intellectuelles. Cela donne des troubles de l'attention, des troubles de l'idéation, des troubles de la mémoire, on perd la mémoire immédiate. Il y a une altération de la créativité, une gêne dans les activités quotidiennes, dans la vie professionnelle. Une étude anglaise très importante dans la Lancet, publiée assez récemment, a montré et étudié 5000 consommateurs contre des sujets abstinents, et on a noté une altération du quotient intellectuel chez les sujets intoxiqués, avec des troubles de la mémoire de fixation des faits récents et une réduction des performances intellectuelles. Et à l'imagerie cérébrale, à l'IRM, on trouve une réduction de la substance prise, une altération de l'hippocampe et de l'amygdale. Alors, le cannabis donne des troubles psychiatriques très importants en consommation régulière et prolongée. Il donne des attaques de panique. Il peut donner des dépressions aiguës. Et cela entraîne des suicides chez les jeunes. C'est un élément qu'il faut souligner. Il y a des bouffées délirantes, des accès de violence. Et chez l'adulte en particulier, lors d'un syndrome qui a été décrit, c'est l'appauvrissement amotivationnel, c'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement intellectuel, une perte des initiatives, une impossibilité de se concentrer et une véritable apathie. La précocité de la consommation perturbe la maturation cérébrale, c'est un fait qui est souligné par tous les toxicologues et les neurologues. Et il y a une grande vulnérabilité chez les patients bipolaires et chez les schizophrènes. Et cela prédispose, en fait, à une prédisposition aux troubles psychotiques chez les adolescents. Mais bien sûr, le cannabis ne joue pas seulement, il est très souvent associé à l'alcool, et il y a le rôle aussi de l'état sociologique de ces sujets. Leur isolement social est un facteur très important d'intoxication grave. Alors, nous en venons aux troubles cardiovasculaires. Les cardiologues, maintenant, connaissent les troubles donnés par le cannabis. C'est une drogue qui accélère le cœur, qui élève la tension artérielle et qui renforce la contraction du cœur et favorise les arythmies. Alors, la prise de cannabis, l'ivresse cannabique, est associée à une tachycardie, qui est assez importante, à des coûts séquentionnels et surtout, c'est un point très important, aux arythmies. Il y a des extrasystoles fréquentes, on peut avoir un passage à l'arythmie complète, en fibrillation auriculaire, et quelquefois des tachycardies ventriculaires. Alors, il y a des morts qui sont exceptionnelles, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais qui sont bien connues. C'est surtout ces morts surviennent dans les REVS, c'est-à-dire dans ces zones de consommation importante avec de l'alcool, loin de tous les secours et dans des zones qui sont quelquefois très délocalisées, dans la campagne, dans des zones qui sont loin des villes où les secours sont très tardifs. Enfin, ça peut donner des vasoconstrictions aiguës des artères coronaires, des artères cérébrales. On a remarqué que le risque, on a noté que le risque d'infarctus était multiplié par 4 dans l'heure qui suit la prise. Alors, les accidents coronariens viennent d'être résumés dans une grande revue, Heart. On a fait l'analyse de 180 syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire d'infarctus du myocarde. L'élément important, c'est que ces accidents surviennent chez des sujets jeunes. L'infarctus survient en général à la cinquantaine, sous la soixantaine ou même plus tard. Eh bien, c'est autour de 30 ans que ces accidents coronariens surviennent. C'est bien sûr le sexe masculin qui paie le plus de tribut. Alors, on a fait des études coronarographiques et on s'est aperçu qu'il y avait deux types de lésions. Chez les sujets très jeunes, 112 cas, il y a des spasmes, c'est-à-dire une vasoconstriction des artères extrêmement brutale qui entraîne une mauvaise nutrition du cœur et qui donne un infarctus. Et dans d'autres cas aussi, quand un sujet a un peu d'athérosclérose, eh bien ça précipite l'évolution et ça entraîne des thrombus sur ses artères. Et donc, quand les artères sont athéromateuses, il y a une facilitation de l'apparition de thrombose et d'infarctus. Et enfin, il y a 1,6% de décès d'arythmie ventriculaire immédiate. Mais l'élément important, il y a deux éléments importants, c'est que le cannabis est très souvent associé à une forte consommation alcoolique qui contribue aussi à un effet arythmogènes et vasoconstricteurs. Et deuxièmement, et ça c'est l'élément important, comme ces jeunes sujets sont totalement ivres, qui s'expriment très mal, ils n'expriment pas leur douleur, on croit que c'est l'ivresse et on n'appelle pas le SAMU et il y a une prise en charge très tardive de ces accidents coronariens. Au lieu d'être pris dans la première heure, ils sont pris quelquefois à la fin de l'ivresse au bout de 3 à 4 heures, ce qui perturbe les soins et qui entraîne souvent des séquelles cardiaques irréductibles. Donc, un des éléments, si vous voulez, d'aggravation de ces accidents coronariens, c'est la prise en charge tardive de ces malades à cause de l'ivresse. Parce qu'ils se débattent, ils disent n'importe quoi, ils sont confus, et en fin de compte, la douleur est passée inaperçue. Alors, le Centre de pharmacovigilance en France a noté, entre 2005 et 2010, 980 consultations, c'est-à-dire près de 1000 consultations, pour des troubles cardiovasculaires. Alors, soit des épisodes coronariens, soit des arythmies. Les épisodes coronariens, chez 16 patients, c'était l'usage quotidien du cannabis qui a favorisé ces troubles coronariens. Chez d'autres, c'était l'usage 2 ou 3 fois par semaine. Et chez 7 patients, un usage mensuel ou bimensuel. L'élément à souligner, c'est que ces accidents coronariens surviennent chez des jeunes qui ne devraient pas avoir d'accident vasculaire en l'absence de lésions d'athérosclérose. Et c'est donc des jeunes qui mettent en péril toute leur vie exclusivement pour la prise d'un toxique, et d'un toxique qui est extrêmement dangereux, on ne le dit pas. Alors les coronarographies ont montré, comme je disais tout à l'heure, des artères plutôt normales, non athéromateuses. Et chez les tabagiques, par contre, on trouve des artères athéromateuses. Alors il y a d'autres atteintes cardiovasculaires qui soulignent le risque du cannabis. Ça donne des arythmies, des fibrillations auriculaires, des crises de tachycardie paroxystique, mais ça donne aussi des accidents vasculaires cérébraux, puisque cela favorise des spasmes sur les artères, eh bien, on peut avoir des accidents parétiques, des hémiplégies transitoires ou des parésies qui sont très fugaces, mais en fait qui sont quelquefois dangereuses parce qu'elles mettent en péril le cerveau de ces individus. Alors on a décrit des troubles circulatoires des extrémités, des maladies de Raynaud, des spasmes sur les artères périphériques, des angines qui quelquefois des artériopathies des membres inférieurs. Mais alors il y a d'autres manifestations qui sont quand même, surtout chez les sujets qui prennent du cannabis de manière chronique, c'est une irritation de la muqueuse bronchique, avec des altérations qui sont très voisines de celles du tabac. Il y a une augmentation du risque de cancer du poumon pour les grands fumeurs, plus de 20 joints par mois, 5 joints par jour, c'est-à-dire c'est un très grand risque équivalent à celui d'un paquet de cigarettes par jour. Il y a des effets hépatiques, progression du fibrose hépatique chez les patients qui ont déjà eu une hépatite, et enfin, pendant la grossesse, la consommation de tabagique de cannabis est très très dangereuse parce qu'elle a un effet hypotrophique sur le fœtus. Ça, on ne le souligne pas assez. Il y a trop de femmes enceintes, surtout très jeunes, qui fument de la marijuana. Alors, on s'est aperçu, il y a le Centre d'études sur les toxicomanies, le rapport du professeur Goulier en 2015, a montré que dans les centres de toxicologie, les dépendants du cannabis représentent 44% des patients. C'est donc assez important. Et la toxicomanie représente une charge pour l'État très importante, bien inférieure à celle du tabac, 114 milliards pour le tabac, 120 milliards d'euros pour l'alcool, et pour les drogues, ça représente quand même une charge pour l'État de 19 milliards, c'est-à-dire les hospitalisations, les soins médicaux et les arrêts de travail. Enfin, la grande question que l'on se pose, est-ce que la libéralisation du cannabis peut faire disparaître le trafic ? Alors évidemment, ce serait une manne financière pour l'État, parce que le tabac rapporte beaucoup, et le cannabis rapporterait certainement beaucoup s'il était libéralisé. Mais en fait, il est démontré par les toxicologues que si on libéralise le cannabis, cela va faciliter l'accès à d'autres drogues. Parce que les jeunes qui sont addicts ne sont pas satisfaits du cannabis, et même s'il est libéralisé, ils passeront à la cocaïne, ils passeront à l'héroïne, et ils passeront aux substances encore plus toxiques, que sont les amphétamines. Le cannabis banalise et incite à la consommation de cocaïne, de morphine et d'amphétamine. Donc il faut être très réticent sur la libéralisation du cannabis et sa dépénalisation. Enfin, des facteurs génétiques peuvent favoriser l'addiction. Certains gènes pourraient favoriser l'addiction ou majorer les troubles psychiatriques. Alors ceux qui s'occupent beaucoup de génétique ont constaté qu'il y avait des variants, des récepteurs CB1 qui peuvent faciliter l'addiction. Les sujets qui sont porteurs de l'allèle de certaines enzymes peuvent avoir un accès facilité à l'addiction. Alors, le sevrage du cannabis, eh bien, quand on s'arrête brutalement, c'est souvent la source de manifestations extrêmement dangereuses. Dans les 48 heures qui suivent l'arrêt, le sujet, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire un désir absolument forcené, un désir irrésistible de consommer. De ce fait, il y a des grandes phases d'agressivité, d'irritabilité, il y a des agressions qui sont dues à l'arrêt brutal du cannabis. D'autre part, il y a des accès de colère, des accès de violence immotivée. Et très banalement, alors, en dehors de ces manifestations spectaculaires, il y a des cauchemars. Et quelquefois, l'arrêt brutal entraîne une humeur dépressive et c'est donc des suicides chez les jeunes qui peuvent être expliqués par le cannabis. De plus, quand on arrête brutalement le cannabis, si on a des risques, il y a une augmentation de la consommation d'alcool ou de consommation de tabac accrue. Enfin, il y a des troubles somatiques, des troubles digestifs, des troubles cardiaques, des manifestations neurologiques. Et quand on arrête le sevrage, fait qu'indiscutablement, il y a une mauvaise insertion sociale et professionnelle de tous ces sujets qui abandonnent l'école, qui abandonnent leur poste de travail et qui, indiscutablement, ont besoin d'une prise en charge psychologique pour retrouver leur équilibre et dans leur vie sociale et professionnelle. Alors, y a-t-il un traitement ? Non, il n'y a pas de traitement si ce n'est la prise en charge psychologique. Il faut que les jeunes, en particulier, qui désirent arrêter la consommation du cannabis, soient pris en charge par des psychiatres, par des psychologues. Il faut un soutien constant pour éviter justement les crises terribles dues au sevrage brutal. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique. On a essayé le bupropion, un agoniste dopaminergique que l'on donne pour essayer de réduire la consommation de tabac ou d'alcool, le dipyrrolate de sodium, mais ça ne marche absolument pas et ces médicaments ne sont pas actifs pour, en quelque sorte, de détourner du cannabis les jeunes patients. Les neuroleptiques à dose sédative peuvent être utiles, mais en fin de compte, on ne peut pas donner des neuroleptiques à ces jeunes en permanence. Alors, y a-t-il l'usage médical du cannabis ? Alors, on voit des publications, surtout aux États-Unis, et on propose le cannabis dans des situations dramatiques, en particulier au stade très avancé de cancer. Donc, c'est un des éléments qui pourrait traiter la cachexie néoplasique en redonnant un peu d'appétit aux malades qui souffrent de troubles digestifs donnés par les médicaments contre le cancer. Enfin, dans les douleurs néoplasiques rebelles aussi, on a essayé le cannabis, ça peut donner quelquefois, ça peut avoir un certain succès. Et enfin, dans les troubles digestifs qui suivent la radiothérapie ou la chimiothérapie. Alors, je vous montre pour terminer qu'à l'heure actuelle, le cannabis, ce sont des sœurs hollandaises, pour vous présenter le cannabis en plante, qui ont des jardins au cannabis, et elles cultivent avec tout à fait beaucoup de facilité en Hollande le cannabis, et elles le vendent très facilement, ça rapporte beaucoup à leur communauté. Ce qui est surprenant, c'est qu'indiscutablement, on facilite la culture de cannabis à l'heure actuelle, en sachant que c'est quand même un risque majeur. Alors, en conclusion, je voulais vous dire donc que le cannabis est une drogue qui est indiscutablement très dangereuse. Il ne faut pas majorer ses risques immédiats, mais elle est dangereuse parce qu'elle donne l'habitude de la drogue. Et pourquoi ces jeunes vont vers la drogue ? Eh bien parce que très souvent, ils sont désemparés, ils espèrent trouver un soutien dans la drogue pour passer un cap critique, et simplement aussi par copie pour essayer de faire comme les vedettes, et ils prennent du cannabis parce que c'est à la mode, purement et simplement. Est-ce que ça renforce les possibilités, la création artistique ? Certainement pas. Hein. On avait démontré que les poètes pouvaient travailler sous l'influence du cannabis, en particulier Baudelaire avait essayé, mais en fin de compte, ça, il a abandonné assez rapidement. Et finalement, on peut dire que c'est le péril actuel numéro un pour les jeunes, à cause surtout des accidents traumatiques liés, des accidents de la circulation, et parce que cela détourne en quelque sorte d'une vie raisonnable du travail. Je vous remercie de votre attention. Merci.